l'attitude.
Et on va parler d'Irlande, de moutons, de petits pubs et de paroisses. Et pour cela, nous sommes en studio avec Christian Paty. Bonjour.
Bonjour.
Donc, Christian, avant la bande dessinée, vous étiez dans la communication et la publicité. Puis, quelques années plus tard, votre hobby devient votre métier et vous commencez à travailler sur des projets comme Damoiselle Gorge, Les cicatrices du souvenir ou encore Gestes de chevalier dragon. Plus récemment, vous avez illustré L'Odyssée de Pénélope ou encore Les mantes religieuses dont le tome 2 vient tout juste de sortir. Mais aujourd'hui, on vous reçoit pour parler du Pré derrière l'église dont le tome 2 est paru l'année dernière aux éditions Soleil. Une histoire qui se déroule dans un petit village irlandais où, suite à la disparition du curé dans le tome 1, les animaux, principalement des moutons mais aussi des chèvres, un hibou, un écureuil et quelques animaux de ferme, essaient de comprendre ce qu'il s'est passé, chacun à leur manière, et y en a qui enquêtent, d'autres qui pensent que le curé était un dieu et qui s'en cherchent à nouveau. Alors, c'est une collaboration que vous avez faite avec donc Didier Chris. Quelle a été l'idée de départ de ce projet? Qu'est-ce qui vous a amené aussi à travailler dessus ensemble?
Au cours d'un salon, je me rappelle plus lequel, en fait, avec Didier. Didier m'a dit, tiens, ça te dirait pas qu'on bosse ensemble? Et en fait, ouais. J'avais la même envie, donc j'ai dit, bah ouais. C'est venu comme ça. Après, pour dessiner sur le pré derrière l'église, on a cherché ce qu'on allait faire, et moi je disais que ce que je voulais par-dessus tout, c'était de dessiner des animaux. Ça fait longtemps que je veux dessiner des animaux. J'en dessine depuis tout petit. Mmh. Je dis pas que je les dessine mieux, mais j'adore ça. Donc il fallait un truc avec des animaux. Et Didier a eu l'idée du pré derrière l'église. Il avait le titre, il avait l'espèce de petit village en tête comme ça, il trouvait ça sympa.
Parce qu'au final, par rapport à vos autres projets qu'on peut trouver chez les mêmes éditeurs ou d'autres éditeurs, ouais. Là ça sent vraiment le projet plus personnel, où on a l'impression que vous avez été plus à vouloir tenter des choses et faire quelque chose de plus intime.
Je me rends pas trop compte de ça. Ouais. Je me suis pas posé la question comme ça, en tout cas.
Ouais, c'est juste venu comme ça.
Je voulais faire des animaux. J'étais vraiment fixé sur ce truc-là, dessiner des animaux. Et Didier me disait, bah ouais, on peut le faire.
Et du coup, à deux, vous avez élaboré dans ce petit concept.
C'est ça.
Du coup, le village irlandais, c'est vraiment pour le côté vraiment paisible, isolé, tranquille, dans lequel il se passe des petites histoires qui n'ont pas forcément énormément de monde ni de protagonistes.
C'est Didier qui a choisi le lieu. Il voulait quelque chose d'un peu anglais, comme ça, sans savoir véritablement. Et c'est lui qui m'a appelé pour me dire, ça te dirait si tu te sens, si on fait un truc qui se passe en Irlande, comme ça, est-ce que ça te va, tu te sens à l'aise? Ouais.
Oui, parce que je rappelle que vous êtes tous les deux scénaristes de profession, donc quelque part, voilà, vous avez.
Alors moi, je suis plutôt dessinateur. Lui, a plus la casquette. J'en ai fait un petit peu, mais pas vraiment autant que lui. J'ai fait deux, trois bricoles, mais rien de plus.
D'accord.
En tout cas, pour l'instant. Ouais. Et donc lui a vraiment l'étiquette de scénariste, hein, beaucoup plus.
Donc là, vous êtes plus cantonné à vos rôles respectifs, vraiment sur lequel, du moins vos rôles de prédilection.
Ouais, c'est ça.
Et donc, c'est la signification particulière, il n'y en a pas vraiment, quoi. C'est vraiment le petit village irlandais pour faire un cadre agréable.
Ouais, c'est vrai que pour le truc sympa, ça. C'était le, voilà.
Et c'est effectivement, alors, on sent que vous êtes fait plaisir parce que le bouquin est quand même agréable à lire, dans le sens où vraiment il y a tout un tas de paysages, de détails, un grand découpage dans les cases qui fait qu'il y a aussi énormément d'action, parce que voilà, on peut avoir des ouvrages qui font entre 48 et même 100, 300 pages. Il n'y a pas tant de pages que ça, mais pourtant il se passe énormément de choses dedans. C'était un choix aussi de faire un format court mais bien dense.
Alors là, pour le coup, c'est plutôt Didier qu'il faudrait demander. C'est lui qui a géré toute cette partie-là, toute cette narration, tous les rebondissements, tout ce qui s'y passe, quoi. C'est lui, hein, c'est plutôt lui.
D'accord.
Alors on a pas mal discuté, c'est-à-dire que il me demandait, on a échangé pas mal. Tu verras ça, tu serais d'accord avec ça, etc., etc., etc. Mais c'est essentiellement lui, ouais. Essentiellement lui.
Et le rendu graphique, il est soigné, le dessin est détaillé. Donc les planches, comme je l'ai dit, sont découpées en 8 cases en moyenne, ce qui fait donc une histoire assez dense.
Ouais.
Côté visuel, il y a un grain qui fait penser à du crayonné, la colorisation en technique traditionnelle. Est-ce que c'est le cas?
C'est ça.
C'est bien ça, vous l'avez fait. Hein.
C'est ça.
Aquarelle. Et combien de temps ça prend pour réaliser un album du Pré derrière l'église, qui donc tout en aquarelle, vous m'avez dit?
Tout en aquarelle. Je crois, de mémoire, on a dû mettre 7 mois, je crois. Pour le faire, 6 ou 7 mois, un truc comme ça. Ouais.
D'accord, effectivement, ça fait quand même une sacrée cadence de production.
Ouais, c'est.
Justement, sur la technique du crayonné et de l'aquarelle, est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez faire librement d'habitude sur vos autres travaux? C'est quelque chose que vous vous êtes permis cette fois-ci? C'est juste une technique que vous avez voulu faire pour, pour changer un petit peu?
Alors, je l'avais plus ou moins expérimenté il y a très très longtemps, quand j'ai commencé, j'en gardais pas forcément un super bon souvenir. Donc, quand c'est Didier qui m'a poussé à faire la couleur. Mmh. Je l'envisageais pas vraiment jusque-là. J'essayais de m'impliquer sur le dessin, le crayonné, l'ancrage. J'essaie de le pousser à chaque fois. Enfin, de le pousser. J'essaie toujours de l'améliorer. On se rend pas compte, nous, en fait. C'est les autres qui savent si on s'améliore ou pas. Mais
oui.
J'essaie quand même. Donc, le côté progressif du dessin, moi, je le sens pas du tout. Je sais pas. Et sur la couleur, je l'envisageais pas du tout. C'est Didier qui m'a poussé à faire la couleur. Au début, quand il m'en a parlé, j'étais un peu dubitatif. Je me suis dit, c'est pas trop. Un album entier, quand même, c'est long, quoi. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais tenir le coup? Et il m'a dit, bon, ok. En fait, quand il a dit ok, dans ma tête, c'est là où je suis un peu con. Dans ma tête, ça fait comme ça. Ouais, il pense que je suis pas capable, c'est ça? Donc je l'ai rappelé. Non, il est fourbe.
Psychologie inversée.
Ouais, c'est ça. Et du coup, je lui ai dit, ouais, je pense que je vais essayer. Du coup. Et je l'ai fait.
Dans le tome 1, on voyait assez peu d'humains. Ils apparaissaient que plus tard dans l'histoire. Mais dans le tome 2, les villageois sont présents dès le départ avec l'arrivée d'une nouvelle institutrice le soir de Noël. Une jeune et jolie femme qui va provoquer quelques remous. Et en parallèle, on a un petit agneau de la crèche qui revient traumatisé parmi les siens et qui dit avoir vu des choses étranges. Et même chose du côté du pub le lendemain, côté villageois. Alors deux histoires en parallèle avec deux groupes, humains et animaux qui ne se comprennent pas mais qui essaient de résoudre le même mystère. Là aussi, le fait que ça se passe dans une petite communauté isolée, ça permet de dérouler des petites histoires mystérieuses sans qu'elles prennent trop de grandes proportions, comme ça pourrait être le cas dans une grande ville très peuplée.
Oui, bah oui, le fait de le faire dans un petit village, on peut se concentrer sur des types précis de personnages, quoi. Donc ça recentre un petit peu tout, ça recentre l'attention, ça recentre tout ce qui s'y passe, l'action. Ça permet de développer justement certains rapports humains qui auraient été beaucoup plus difficiles dans une grande ville. Tu mets 100 000 personnes, c'est plus difficile à cadrer.
Oui, ça donne des phénomènes un peu plus accentués, ouais. Et donc au final, ouais, vous avez créé un univers tous les deux. Basé sur l'envie de dessiner à la base juste des animaux, mais après le fait de les faire vivre ou quoi, ça. Justement, moi j'avais une question parce que bon, le premier tome, on pourrait penser qu'il suffit à lui-même, ouais. Et il y en a un deuxième qui prend place dans le même univers.
Ouais.
Est-ce que c'était prévu dès le départ de faire un deuxième tome?
Oui. On prévoyait de l'installer comme une série, quoi.
D'accord. Mais, dès le départ.
Au moins trois tomes.
Au moins trois tomes,
c'est ce qu'on envisageait.
Okay.
Après, les mêmes questions se posent pour à peu près tous les auteurs aujourd'hui. Hein. Est-ce qu'on va arriver à faire trois tomes? Tout ça, c'est voilà, c'est les mêmes questions avec les mêmes échanges avec l'éditeur. Les complexités la même. Donc, on espère pouvoir faire le tome 3, mais il y avait cette volonté, en tout cas, de faire un album terminé à chaque fois. Effectivement, c'est pour ça qu'on a le sentiment que le 1 se suffit à lui-même. Mmh. Mais le 2, pareil, l'histoire est terminée à la fin. Donc, pour pas avoir de frustration, de suivi de série, pas se dire, ouais, la série n'est pas terminée.
Et justement, le tome 3, est-ce qu'il est déjà en chantier ou vous attendez
à voir? On a les idées. Il n'est pas en chantier, on a les idées, on sait ce qu'on va mettre dedans, est-ce qu'on va le faire ou pas. Après,
ça va dépendre de l'éditeur.
De le préciser. C'est lui qui sait si c'est important ou pas de le faire.
Mais il en résulte donc un ouvrage unique qui est un petit peu à part de vos bibliographies respectives, en fait, qui s'appelle donc Le Pré derrière l'église. Ouais, il y a le tome 1 qui s'appelle Le Pink Clover, voilà, qui est le nom du pub que l'on peut trouver là-bas. Le pub qui est en conflit avec la paroisse juste à côté, où on en apprend un peu plus durant le tome 1, je ne vais pas révéler. Et donc le tome 2, Miss Kelly Penny, du nom de l'institutrice qui débarque dans le village, tous deux disponibles donc aux éditions Soleil.
Et c'était drôle, le Pink Clover, rien que le nom, le Pink Clover, ça a beaucoup fait rire Didier, le trèfle rose. Chez des bons compagnards bien masculins dans le bar, parce qu'au début c'est quand même un peu réservé aux hommes.
Oui.
C'est assez drôle de l'appeler le Pink Clover.
Effectivement, il y a toutes sortes de petites bizarreries comme ça qui posent questions, qui ouvrent des parenthèses, et voilà, on le dit, comme vous avez le souci de terminer les histoires, voilà, les tomes se suffisent à eux-mêmes, donc du coup au final les questions trouvent réponse avant la fin de la bande dessinée. Parmi tous les projets pour lesquels vous travaillez l'un et l'autre, est-ce que vous avez eu justement l'occasion de le défendre un peu plus, celui-là?
Justement, on va en reparler. Encore une fois, cette partie-là, c'est plutôt Didier qui la gère.
D'accord.
C'est pas que je lui renvoie la balle, mais il est plus aguerri que moi pour ces choses-là. Donc, lui, il défend bien le projet. Ouais. Ouais, ouais.
Mmh. Et justement, le FIBD, c'est un rendez-vous régulier pour vous?
Ah, ça faisait un petit moment que j'étais pas venu là, ça doit faire je crois 6 ans ou 7 ans peut-être que j'étais pas revenu. Donc je retrouve le FIB comme d'habitude.
Comme d'habitude, comme vous l'avez laissé.
Ouais, c'est ça.
Et en tant qu'auteur, vous avez le temps de profiter de quelques bons moments du festival, des soirées, ou d'aller voir un peu les copains, ou de ce qui se passe sous les bulles?
Un petit peu, ouais. C'est toujours un peu speed hein, quand même. C'est la BD Angoulême, c'est toujours très speed. On voit beaucoup de monde, mais très très rapidement, on se croise. Effectivement, on a un peu l'occasion de faire le repas. On retrouve les copains le repas le soir ou dans les bars. Donc oui, il y a moyen de passer des très bons moments. Oui.
Et professionnellement, c'est l'occasion d'initier peut-être aussi des nouveaux projets ou d'avoir des contacts.
C'est l'occasion. Ouais. Dès qu'il y a besoin, je pense que tous les auteurs, tous les éditeurs. Tout le monde sait que c'est le lieu pour ce genre d'échange, ouais. Donc il y a moyen, il y a carrément moyen.
Et sur cette édition 2023, est-ce qu'on peut vous trouver pour des séances? Bon, on parle toujours des séances de dédicaces, mais il peut aussi y avoir des rencontres, des démonstrations. Vous êtes là pour présenter, j'imagine, vos différents travaux, pas seulement le prêt derrière l'église.
Ouais.
Et on peut vous trouver.
Essentiellement en dédicace, il n'y a pas trop de trucs à côté. J'ai des interviews, content.
Ça change un peu.
Ouais.
Et du coup, on vous trouve sur le stand Soleil.
Sur le stand Soleil, Soleil Delcourt, tout le long de. Alors, on a des créneaux horaires aménagés, mais sur le stand, je serai là encore samedi et dimanche aussi.
D'accord, samedi et dimanche.
Et dimanche matin.
Matin. Très bien. Eh bien, Christian Patti, merci. Il me reste à vous souhaiter un bon FIBD et puis peut-être l'année prochaine.
Merci beaucoup et avec plaisir. Avec plaisir.